Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Avec cette question, assiste-t-on à une revanche du national dans les affaires du monde? La question se pose à la lecture d'événements comme le Brexit ou l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, l'agression russe contre l'Ukraine, l'appétit de Pékin en mer de Chine ou encore la crispation qui a émergé autour de la question des migrants, voire les échecs de la diplomatie au Proche-Orient. Revanche du national face aux effets de la mondialisation, réaffirmation des frontières comme rempart de protection ou au contraire érosion inéluctable des souverainetés et fin des territoires. Dans un ouvrage intitulé « Vers un monde néo-national » paru aux éditions du CNRS, Guy Zminassian, journaliste au Monde, publie les entretiens qu'il a eus avec deux penseurs contemporains français et confronte leurs points de vue. Bertrand Badie et Michel Fouché sont nos invités pour décrypter l'évolution de notre monde et ses dérives possibles. Bertrand Badie, vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po et l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier « Nous ne sommes plus seuls au monde » paru aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Et Michel Fouché, vous êtes géographe, diplomate titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales, auteur également de nombreux ouvrages, dont le dernier, Le retour des frontières, paru aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
La parenthèse qui s'est ouverte en 1989-1991 avec la chute de l'URSS, la fin de la guerre froide et une vague de mondialisation sans précédent, est-elle en train de se refermer? Et vers quoi nous acheminons-nous, si tant est que l'on puisse décrire l'inconnu? Pourquoi ce retour pour certains à la nation, au repli, là où d'autres, peut-être les plus jeunes, continuent de croire à un monde ouvert, globalisé et interconnecté? Une question de génération, je pose la question. Quel regard portez-vous sur le monde tel qu'il est aujourd'hui, Bertrand Badie?
De génération, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que si on regarde l'élection présidentielle française qui est toute fraîche dans notre mémoire, Jean-Luc Mélenchon qui affiche une gauche nationaliste a, semble-t-il, et en tous les cas les sondages en témoignent, drainé une partie très importante de la jeunesse. Donc on a l'impression que dans la nouvelle génération, il y a en même temps un certain engouement pour le monde, la mondialité, une compréhension de ce monde qui est très présent à l'esprit de chacun, mais une sorte de méfiance, de doute, d'incertitude. S'il y a un effet séquentiel, et c'est peut-être ce qu'on a voulu aussi dire dans ce livre, c'est que le doute s'est installé un peu à tous les niveaux des comportements sociaux face à cette mondialisation que non seulement on ne comprend pas toujours, que l'on simplifie à l'excès dans le discours politique, mais sur le dos de laquelle, si je puis dire, on a tendance à mettre tous les échecs, les problèmes, les difficultés rencontrés par tout un chacun. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une séquence de doutes vis-à-vis de la mondialisation et probablement plus dangereusement encore d'enfermement. L'enfermement est une certaine mode politique, mais c'est plus une séquence qu'un effet de génération.
Michel Fouché.
La mondialisation dont on parle, c'est une sorte de changement d'échelle pour un géographe, c'est-à-dire que avec la révolution du conteneur et les nouvelles technologies de communication qui permettent de donner des ordres aux exécutants en temps réel ou d'envoyer des dessins dans une fabrique de chaussettes en Chine, depuis Paris ou Londres ou Milan, la chaîne de valeur s'est réorganisée à l'échelle mondiale. Le dernier exemple, en dépit de ce que disent les Chinois, c'est le lancement d'un concurrent d'Airbus et de Boeing, la Comac en Chine. Les systèmes de commande et les réacteurs sont de fabrication franco-américaine. Et donc, une entreprise française, Safran, s'installe sur un nouveau marché en Chine en concurrençant Airbus, entreprise franco-allemande. C'est ça, la mondialisation économique. Mais notre vision, je dirais, occidentale, qui est une vision un peu de nouvelles conquêtes, marché sans frontières pour nos produits, etc., et nos normes et nos valeurs commerçantes, a négligé le fait que cette mondialisation est perçue par les autres d'abord comme une mondialisation des États-nations, c'est-à-dire un désenclavement et une opportunité extraordinaire de s'inscrire dans le monde pour toute une série de raisons historiques qui sont formulées comme la fin de l'humiliation en Chine, le développement en Inde qui est tout à fait spectaculaire actuellement puisque l'Inde suit avec 20 ans de retard la voie de la Chine. La date clé c'est 2001, c'est-à-dire non pas le 11 septembre, mais deux mois plus tard, l'entrée de la Chine dans l'OMC. La Chine est le champion toute catégorie de la mondialisation, et c'est ce que le président Xi a dit à Davos fin janvier. Il a donné à tout le monde, notamment aux mondialisateurs anglo-américains, une leçon de mondialisation heureuse, le win-win chinois. En géographie, on travaille toujours sur le fait que les réalités sont à plusieurs échelles. On a juste privilégié l'échelle mondiale, en négligeant le fait qu'il y avait d'autres échelles fondamentales qui sont en place depuis, en Europe, plus de 1000 ans, qui est l'échelle nationale. Donc c'est autour de ça que nous avons dialogué avec Bertrand Badi.
Alors, on reparlera de la question des frontières. Donc, 2001, véritable tournant, Bertrand Badi, avec l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, qui a permis à ce pays d'atteindre le niveau économique qu'il a aujourd'hui. Elle a, cette mondialisation favorisée, on l'a compris, des émergences économiques sans s'accomplir politiquement. Et ce qu'évoquait Michel Fouché à l'instant avec la fin de l'humiliation en Chine, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, le sujet de fond demeure et perdure, celui de la reconnaissance.
Oui, tout à fait. Il faut voir qu'on est face à un phénomène qui est assez rebelle à l'événement. C'est-à-dire que c'est vrai que l'entrée de la Chine à l'OMC a été un moment fort qui permet de nous repérer sur une chronologie. Mais la mondialisation, et Michel Fouché le rappelait il y a un instant, c'est d'abord et avant tout un bouleversement technologique. Et un bouleversement technologique n'a pas de date de naissance, mais un lent processus, je dirais, de banalisation dans les comportements sociaux. C'est-à-dire que on apprend à se mondialiser et se fait ce processus, en fait, a commencé dans les années 60-70, aussitôt après les 30 glorieuses que nous avons vécues en Europe. Et c'est peut-être un signe de quelque chose, parce que l'Europe était au sommet de sa reconstruction, peut-être de son accomplissement et de sa réalisation après la guerre, lorsque elle a découvert brutalement qu'elle n'était plus seule au monde, qu'il y avait effectivement des puissances mondiales. La Chine est tout à fait archétypique, et ça mérite d'être étudié. Et derrière cette caractéristique très forte, emblématique pour la Chine, il y a l'idée que c'en est définitivement terminé de ce temps où une région du monde pouvait produire de l'hégémonie, monopoliser le jeu international. Faut pas oublier que l'Europe a quand même inventé les relations internationales modernes. Tout ça, ça s'est effondré. Et du coup, la mondialisation, c'est une dialectique sans fin entre des capacités extraordinaires d'expansion sur lesquelles on ne pourra jamais revenir. C'est là qu'il faut surtout pas qu'il y ait de malentendus. Et ce mélange, effectivement, de conquête chez ceux qui se sont sentis relégués, marginalisés, qui n'avaient pas le droit de jouer. La Chine au 19e siècle, et même je dirais la Chine jusque à la Seconde Guerre mondiale, n'avait pas le droit de jouer sur l'échiquier international. Et donc ceci a provoqué une formidable poussée pour s'accomplir pleinement dans cette mondialisation qui était une chance historique d'enfin exister. C'est la même chose pour le Brésil. Faut pas oublier comment le Brésil a été humilié pendant l'entre-deux-guerres. On lui refusait de façon hautaine de participer au Conseil de la Société des Nations. Même chose pour l'Inde qui était encore dans le statut colonial. Et face à cela, ce vieux monde qui était monopolistique et qui cette fois-ci ne découvre plus comme les autres l'émancipation, mais a le sentiment d'entrer dans un cycle d'humiliation. Quand on regarde la parole anti-mondialisation en Occident, c'est une parole d'humilié. C'est-à-dire, nous avons été dépossédés, nous sommes envahis. C'est extraordinaire, le mythe de l'invasion, par exemple, en Occident, c'est la réplique imaginaire de l'invasion réelle et dominatrice qu'a été la colonisation au 19e siècle. Donc, effectivement, tout se passe comme si l'humiliation avait changé de camp et comme si, effectivement, le monde occidental était à son tour humilié. C'est un peu, quand même, exagéré, à mesure où, comparé le sort ou le statut qui est réservé aux puissances occidentales aujourd'hui avec celui de la Chine, de l'Inde ou du Brésil avant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, on s'aperçoit qu'il n'y a pas le compte.
Alors finalement, est-ce que ce blocage, entre guillemets, politique des pays occidentaux est une juste réponse à ce que vient d'évoquer à l'instant Bertrand Badi, Michel Fouché ?
Je ne sais pas s'il y a blocage, mais vous aviez parlé tout à l'heure de reconnaissance. C'est une notion philosophique très très importante dans les relations internationales. Parce que là, reconnaître le point de vue de l'autre, hein, c'est le béaba de la négociation. Que pense l'autre? Que veut-il obtenir? La conséquence de la reconnaissance, c'est qu'on est partie prenante de la décision collective. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec les formules de club que Bertrand n'aime pas beaucoup, la diplomatie de connivence, le G7, réunion là à partir de après ce dimanche, hein, à Taormina, le G20, tout ce que prépare Madame Merkel à Hambourg. Ce sont des enceintes extrêmement utiles, même s'il n'y a pas de décision concrète derrière. Donc, on a besoin, en effet, d'adapter les dispositifs politiques et diplomatiques à ces nouvelles réalités de mondialisation, mais qui ne se limitent pas à l'économie, la finance et la marchandise et la technologie. C'est ça ce qu'on comprend pas. J'insiste sur la mondialisation des États-nations, mais il y a d'autres éléments de la mondialisation des représentations. L'instantanéité d'images évidemment sélectionnées, et donc des émotions, et puis la mondialisation par le bas, c'est-à-dire que l'état du monde est de plus en plus connu au fin fond du Soudan, grâce notamment à cet outil qu'est le portable, grâce bien entendu à la radio, et ça se traduit par la migration. La migration, c'est la forme nouvelle de la mondialisation par le bas, et ça aussi, c'est irrépressible. On ne pourra pas revenir en arrière, parce qu'on sait à Agadez qu'il y a un pays qui s'appelle la Libye, on va être maltraité, et ensuite on va traverser avec une chance sur cinq d'y rester, mais après, on sera dans un continent où les droits de l'homme seront protégés, on aura sa chance. Donc c'est tout ça que les diplomaties occidentales, notamment européennes, ont du mal à prendre en compte parce qu'on reste en Europe beaucoup trop concentré sur soi-même, sur son passé, sur sa propre construction. Et il est temps, là aussi, en politique extérieure européenne, de changer d'échelle.
Alors, vous dénoncez dans l'ouvrage l'absence de réflexion sur un monde de migration régulée. Finalement, Bertrand Badi, la question migratoire, quel défi constitue-t-elle pour, en particulier, les pays occidentaux, peut-être ?
Michel a tout à fait raison. C'est-à-dire que la migration est parfaitement emblématique. Avec ce contexte que nous décrivons, le migrant est devenu l'avenir banal du monde. C'est-à-dire, gagnera celui qui saura se déplacer, alors que le sédentaire sera en situation de handicap. C'est exactement le contraire de ce monde d'État-nation. Faut pas oublier que État et statisme ont la même racine, c'est-à-dire un jeu politique dans lequel on ne bouge pas, dans lequel le rapport au territoire et l'effet frontière sont absolus. Donc, effectivement, moi, mon grand étonnement des années qui viennent de s'écouler, c'est l'incroyable stérilité de la réflexion du Conseil européen en matière migratoire. C'est-à-dire savoir mettre en place une gouvernance mondiale de la migration. Dans ce livre, on consacre le dernier chapitre, la dernière rencontre, à la gouvernance mondiale. Deux choses à ce propos. La première, c'est qu'elle ne fonctionne qu'imparfaitement. Elle fonctionne là où tout le monde est heureux qu'elle fonctionne. Par exemple, les avions volent. Il y a un régime international très sophistiqué, une gouvernance mondiale très sophistiquée de l'aviation civile. Parce que sinon, ce serait la ruine pour tout le monde. Mais effectivement, dans beaucoup d'autres secteurs, et notamment le secteur migratoire, on ne parvient pas à mettre en place une gouvernance mondiale de la migration, ce qui est en complet décalage par rapport au monde et par rapport aux réalités d'aujourd'hui, et donc qui crée cette tension épouvantable dont les migrants sont les premières victimes. Mais justement, tout le défi maintenant, c'est de savoir dépasser le concept de souveraineté dont je vous rappelle qu'il date du XIIIe siècle, parce que rien n'a changé depuis le XIIIe siècle, savoir l'adapter à cette mondialité dont personne ne connaît le code politique ni juridique parce qu'elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé. Les historiens aiment nous répliquer qu'on en est à la énième mondialisation. Ceci n'a rien à voir avec la précédente. Donc, effectivement, ça explique cette contraction, cet enfermement. Alors, Michel évoquait le G7, mais le G7 est symptomatique de l'enfermement. C'est-à-dire, dans le G7, il y a que les vieilles puissances. Si on considère que le Japon est effectivement un extrême Occident et une vieille puissance. Mais même la Chine, pensez que la Chine premier ex aequo sur le podium de l'économie mondiale, ne fait pas partie du G7. Alors, on a créé un G20, mais ce G20, il fonctionne à la traîne. Il se réunit après le G7, ce qui est tout un symbole. Et généralement, on ne sait même pas quand il se réunit et où il se réunit, tellement le phénomène est marginalisé par rapport à cette volonté de garder le monopole de pouvoir qu'incarne le G7 et qu'incarne d'une certaine façon aussi beaucoup d'autres instances au sein du Fonds monétaire international, au sein des Nations Unies. Le Conseil de sécurité, c'est non seulement le P5, mais c'est essentiellement le P3, c'est-à-dire ces trois puissances occidentales qui se réunissent avant toutes les autres pour décider des textes. Donc il y a un énorme parcours à faire et il y a cette sorte de chikungunya de la politique mondiale que représente le nationalisme aujourd'hui, qui n'a rien à proposer. Todorov disait, avait une très bonne formule, il disait le nationalisme n'a rien à vendre. Et effectivement, il n'a rien à proposer par rapport à cet enjeu de la gouvernance mondiale, sauf gérer les pleurs. Et les gérer souvent de façon malhonnête. C'est-à-dire, on met sous le compte de la mondialisation, il suffisait d'écouter Madame Le Pen lorsqu'elle arrivait à articuler un propos pendant la campagne électorale, tout était la faute de la mondialisation. C'est absolument extraordinaire. Bon, donc, c'est un discours qui est essentiellement un discours contestataire. C'est la raison pour laquelle, moi, je préfère parler de néo-nationalisme que de néo-nationalisme. C'est de l'idéologie, c'est une sorte de virus, chikungunya, que représente cette certitude que le repli sur la nation va tout régler. À droite, Madame Le Pen, à gauche, Monsieur Mélenchon, dans le cas français.
Alors, le nationalisme n'a rien à proposer, ce que vient de dire Bertrand Badi, et on y voit finalement une sorte de caisse de résonance des plaintes et complaintes. Vous opposez, on a 3 minutes pour peut-être répondre à cette question, on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission, Michel Fouché. Vous êtes opposé, Bertrand Badi et vous-même, sur le terme à privilégier entre néo-nationalisme ou néo-national. Est-ce que vous pouvez juste nous faire une petite...
Non, c'est pas une opposition, c'est... ça dépend de... Là, Bertrand parle de positions politiques qui sont vraiment nationalistes. Et heureusement, cette ligne a été défaite le 7 mai. C'est une bonne nouvelle. Parce que ça va, dans un monde interconnecté, on voit tout de suite que ça va avoir des effets en Autriche, en Allemagne ou en Europe du Nord. Tout de suite.
C'est mai, on est d'accord, l'élection présidentielle française.
C'est la défaite d'une ligne néo-nationaliste, de repli sur soi comme solution à tous les problèmes. C'est aussi la défaite de Zemmour, hein, du déclinisme, de tous les gens qui depuis 15 ans font fortune en nous expliquant que la France est un océan de larmes et dans un pays où l'opinion publique semble plus malheureuse qu'en Afghanistan, en Irak. Toutes les statistiques américaines le prouvent. Il faut arrêter avec ça. Donc c'est une date importante. Le néo-national, je le vois plutôt dans, justement, l'usage de la mondialisation économique et financière et technologique par les puissances ascendantes qui contestent l'ordre établi par les puissances établies, précisément. On le voit en Inde, on le voit en Turquie, pour le pire ou pour le meilleur, on le voit surtout en Chine, c'est-à-dire que c'est un instrument, je dirais, d'affirmation de puissance. On peut discuter des détails, mais c'est en ça que je pense qu'il y a l'insertion dans le jeu économique global permet d'accumuler des techniques, des compétences, des capitaux, des réseaux, de contrôler des marchés. C'est au service d'une politique, disons, de puissance, tout simplement de sécurité. Les Chinois sont insupportés par le fait que la 7e flotte patrouille au long des côtes et empêche la marine chinoise de passer des eaux vertes aux eaux bleues. C'est insupportable pour les Chinois. Les Indiens sont dans la même situation, face à la Chine d'ailleurs, dans l'océan Indien. Et donc c'est ça ce que je définis comme l'affirmation nationale ou néo-nationale pour ces puissances ascendantes. Il faudrait dire un mot aussi de l'Europe sur les questions migratoires, parce que dans ce monde nomade, en effet, on a été surpris par le pouvoir d'attraction de l'Europe, et aux dernières nouvelles, les Italiens et les Allemands réfléchissent à l'installation de gardes-frontières européens à la limite entre le nord du Niger et la Libye.
Je vous propose, Michel Fouché, de poursuivre dans la deuxième partie de l'émission sur cette question de l'Europe et des questions migratoires, géopolitiques. Nous retrouvons nos invités, Michel Fouché, Bertrand Badi, dans quelques...
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Assiste-t-on à une revanche du national dans les affaires du monde? Nous retrouvons nos invités. Bertrand Badi, professeur de relations internationales à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier « Nous ne sommes plus seuls au monde » et Michel Fouché, géographe et diplomate titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales, auteur également de nombreux ouvrages, dont « Le retour des frontières » paru aux éditions du CNRS. Bertrand Badi et Michel Fouché, dont les propos, les réflexions sont regroupés dans un ouvrage qui s'intitule « Vers un monde néo-national », un entretien avec Gaëlle Zmination, journaliste au Monde. Michel Fouché, on a terminé la première partie de l'émission et vous n'avez pas eu le temps de développer par manque de temps sur la question des migrations et l'Europe.
Oui, j'ai été frappé de constater que le nouveau président de la République française, dans la partie consacrée aux relations internationales, à sa politique étrangère, a pris une posture plus classique, moins interventionniste, donc moins néoconservatrice, qui est une bonne nouvelle. J'espère que ça va se traduire dans la composition des équipes de manière détaillée. Et il a insisté sur ce qu'il a appelé les États faillis. Et là, j'ai eu quelques informations extrêmement récentes sur la situation au Niger, où les autorités, notamment à Agadez, constatent qu'elles sont impuissantes devant le fonctionnement de réseaux de trafic, de contrebande et de passeurs. Il y a 3 convois par mois de 100 camions avec multicouches, de la cocaïne colombienne qui arrive par la Guinée-Bissau, ça c'est pour le marché européen. Ensuite, les cigarettes qui viennent de Biélorussie, de contrebande. Et puis au-dessus, vous avez les migrants. Comment ça marche, ça? Alors qu'il y a une armée nigérienne, il y a une armée française, il y a des chefs de police, il y a des gouverneurs, des préfets, etc. La réponse, c'est que les clans achètent et menacent. C'est-à-dire, se sont emparés, en quelque sorte, de fonctions régaliennes. Et le titulaire de la fonction régalienne en face n'exerce pas, n'a pas les moyens. Et c'est là-dessus, je crois, si on essaye de décliner cette intention d'action pour faire en sorte que les États concernés par toutes ces crises dans la bande saharo-saharienne, qui nous intéressent directement, et d'abord l'Italie et l'Allemagne, mais nous aussi, comment faire en sorte que ces États ne soient plus des États faillis? Alors il faut sans doute dépasser ce que Bertrand a juste titre, il y a longtemps déjà, mais le livre est réédité, appelé « L'État importé ». Il faut peut-être un autre système de fonctionnement, mais là on voit bien que tant qu'il n'y aura pas d'État qui fonctionne, tant que le gouvernement de Bamako ne s'intéressera pas sérieusement au sort des Touaregs ou des Peuls du delta du Niger, tout ce qu'on fera en termes militaires ou en termes d'aide au développement ne servira à rien sur le long terme. Ça, c'est une vraie question qui a été mise sur la table et sur laquelle, je trouve, on devrait véritablement travailler, mais dans une démarche qui ne serait pas une démarche d'exportation de modèles tout faits ou de seule intervention militaire. On n'a pas à jouer les méharistes, ce qu'on fait actuellement au nord du Niger. Si on n'avait pas détruit la Libye, on n'en serait pas là, bien entendu.
C'est un travail de plus en profondeur, finalement.
Oui, mais il faut un bilan critique de nos erreurs, notamment cette destruction de l'appareil libyen. La Libye était le pôle emploi des pays du Sahel et de la Tunisie. Et donc là, maintenant, ça ne fonctionne plus. Donc il faut très vite reconstruire quelque chose de viable, mais ça ne suffira pas.
Bertrand Badi, vous souhaitez réagir ou on passe à la question suivante en ce qui...
Ce que dit Michel est extrêmement important. C'est-à-dire que le jeu international dans notre vieille mémoire westphalienne européenne, c'est une compétition de puissance, un choc de puissance. Aujourd'hui, la conflictualité, c'est un choc de faiblesse. C'est une compétition de faiblesse. C'est-à-dire que ce sont les faiblesses des États, comme l'a dit Michel, mais aussi des nations, mais enfin des liens sociaux à l'intérieur de ces nations qui expliquent la conflictualité aujourd'hui et effectivement cette autoroute quelquefois qui est laissée à ces acteurs para-étatiques, extra-étatiques ou anti-étatiques. Ce dont l'Afrique, dont il est question, a prioritairement besoin, c'est de politique. C'est-à-dire redémarrer le politique, peut-être même démarrer. Depuis la colonisation, le politique a été absorbé par cette espèce de cocktail de dépendance post-coloniale et de néo-patrimonialisme à l'intérieur des systèmes politiques. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais alors, les Occidentaux ne savent pas du tout faire avec ça. C'est-à-dire, ils voient de la violence, ils voient des troubles, donc ils se disent, une solution, un remède, le canon. C'est-à-dire, en fait, dans la droite continuité de ce que faisait le général Archinard au XIXe siècle. C'est-à-dire, il y avait des rébellions, il y avait des razzias, il y avait des groupes djihadistes, hein, faut pas l'oublier, le djihadiste n'a rien de nouveau, qui, dans un mélange de revendications nationales et de volonté déstabilisatrice, attaquaient effectivement l'armée française. Et on réagissait par la coercition. À l'époque, la coercition payait, parce que l'asymétrie était telle que, effectivement, le plus fort finissait par gagner. Aujourd'hui, c'est très différent. Parce que derrière ces violences éparpillées et fragmentées en Afrique, il y a un tissu social quand même assez fort, assez épais, qui réagit justement face à la mondialisation, à sa façon, et qui est effectivement, deuxièmement, porteur d'imaginaire mondialisé. Ce cocktail des deux fait que cet usage néo-conservateur, effectivement, du canon dans les pays du Sud, non seulement n'est pas une solution, mais fait pousser la mauvaise herbe, c'est-à-dire fait pousser, alimente les entrepreneurs de violence. Faut jamais oublier que M. Zarqawi avait considéré comme une grâce divine l'intervention américaine en Irak. M. Zarqawi dirigeait l'Al-Qaïda locale à l'époque. Et il ne faut pas oublier que tous ces réseaux, en même temps mafieux et de violence, s'alimentent et se régalent de notre interventionnisme naïf, plutôt qu'ils n'en souffrent.
Alors justement, je voudrais aller plus loin par rapport à ce que vient de dire Bertrand Badi, Michel Fouché. Est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, inverser la tendance des relations entre compétition et coopération ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire de la coopération et non plus de la compétition la matrice des relations internationales et sur quoi cela doit-il reposer ?
Ça existe dans le cadre de l'Union européenne, avec quelques difficultés, parce que vous voyez bien que l'installation de position dominante, sinon hégémonique, je pense actuellement à l'Allemagne, en tout cas elle est perçue comme ça, à tort à mon avis, mais elle est perçue comme ça, il y a toujours ce risque-là. On pourrait dire que l'histoire européenne, c'est l'histoire de la formation de coalition contre la puissance dominante du moment. Est-ce que ce modèle de coopération est transposable ? En Afrique de l'Ouest, comme en Asie du Sud-Est, il y a quand même une véritable réflexion sur ce qu'on appelle la dimension d'intégration régionale. Alors, qui est en Asie du Sud-Est essentiellement liée au marché, qui n'est pas très efficace pour régler les conflits, parce qu'ils ne sont pas du tout dans des logiques unitaires. En Afrique de l'Ouest, il y a plus de conversations, plus de fluidité. Très difficile de voir un ministre en Afrique parce qu'il est toujours parti à une réunion quelque part. Il y a le sentiment de points communs. Ça commence, y compris en termes de sécurité aujourd'hui, avec le G5 Sahel. Mais enfin, en même temps, tous ces efforts sont démentis. Par exemple, les petites mutineries qui se passent actuellement dans le centre de la Côte d'Ivoire et qui sont liées à des affaires de primes, liées elles-mêmes au fait que la pluie fine ne retombe pas, pour autant qu'on puisse parler de pluie fine en Côte d'Ivoire. Une croissance extrêmement forte de 8% depuis plusieurs années, soutenue à la fois par l'action lucide du président Ouattara, par la paix civile qui est revenue, et par les cours élevés du café et du cacao. C'est peut-être tout à fait le cas aujourd'hui. Et les populations ne voient pas les bénéfices de ces taux de croissance dont on parle tous les jours à la télévision. Donc là, il y a une véritable difficulté. Coopération, oui, bien sûr, mais entre États solides et qui vont bien eux-mêmes. Ça nous renvoie à la question précédente, comment faire en sorte d'avoir des appareils centralisés, décentralisés, qui soient efficaces. Et c'est sur cette base-là qu'il peut y avoir une coopération. Les grandes institutions régionales ouest-africaines sont toutes situées au Nigeria. Le Nigeria est un pays un peu compliqué quand même.
Pour en revenir à la question du néo-nationalisme, Bertrand Badi, est-ce qu'il y a un néo-nationalisme en Occident, l'autre en dehors de l'Occident ? Qu'est-ce qui différencie un néo-nationalisme en Turquie d'un néo-nationalisme en Occident ? Et finalement, ces deux types de néo-nationalisme sont-ils de nature à s'affronter ?
Oui, alors la question sémantique est extraordinairement importante, parce que ce mot nationalisme a une telle popularité qu'il est tel un élastique tiré vers chacun et dans des directions tout à fait différentes. Il faut absolument avoir en tête deux distinctions. Si on a dit néo-national ou néo-nationalisme et pas national ou nationaliste, c'est parce que déjà il y a un changement par rapport, je dirais, au grand moment du nationalisme dans notre histoire des idées politiques européennes ou occidentales, où le nationalisme, c'était la conquête de droits politiques face au monarque absolu, ou face à un dominateur. L'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, tout ce que vous voulez. Donc c'était une conquête de droit. Aujourd'hui, le nationaliste qui s'exprime parle pas tellement de droit, mais préfère parler d'autorité, d'autoritarisme et de force. Les nationalistes ne parlent pas beaucoup de démocratie. Ils parlent surtout d'autorité. Et les noms que vous avez cités sont là pour en témoigner. La deuxième distinction, c'est que le néo-nationalisme aujourd'hui n'a pas du tout la même signification selon les lieux. Historiquement, c'est une doctrine occidentale. C'est une doctrine occidentale que les élites des pays dominés, pays du Sud, ont reprise à leur compte pour, en quelque sorte, la retourner contre le producteur. C'est-à-dire dire, ben, si vous nous enseignez la nation, alors nous sommes une nation. De manière très compliquée, parce que on simplifie trop. Il n'y avait pas un nationalisme africain dans la mobilisation contre la colonisation. C'était un anticolonialisme africain. Et le rêve, c'était pas de construire des nations, c'était de construire le panafricanisme. C'est ça, la grande utopie des premiers leaders, les Nkrumah, les Lumumba, etc. Et ce n'est devenu un nationalisme à l'occidental que tardivement et de manière plus ou moins échouée, c'est-à-dire par importation. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de nationalisme, dans ces pays du Sud, on a encore en tête l'émancipation et la protection, c'est-à-dire le temps colonial et le temps de la bipolarité. Le temps de la bipolarité où il fallait être soumis à quelqu'un, que ce soit l'URSS ou que ce soit les États-Unis. Et donc, ce qui unit par exemple les émergents aujourd'hui, Chine, Brésil, Inde, Afrique du Sud, c'est un nationalisme en même temps de protection, ne revenez pas chez nous réduire notre indépendance, et encore de conquête, c'est-à-dire nous ne sommes pas totalement émancipés de la domination. Faut pas oublier que la Chine aime se présenter comme un pays en développement. C'est très intéressant de ce point de vue-là. Chez nous, le nationalisme, c'est pas du tout un nationalisme de ce type d'émancipation ou de protection de droits gagnés, c'est un nationalisme nostalgique, c'est un archéo-nationalisme, c'est une volonté d'enfermement qui va de pair avec la dénonciation de l'autre. Enfin, écoutez, c'est extraordinaire, la semaine dernière, sur France 2, un reportage qui comparer les chaussettes chinoises et les chaussettes françaises. Et il y avait un journaliste qui tirait sur les deux chaussettes pour montrer qu'évidemment, les chaussettes chinoises ne résistaient pas quand on tirait dessus. Vous avez ça tout le temps sur les chaînes publiques. Hein, c'est les canapés qui brûlent les mollets des vieilles dames, les canapés chinois, c'est le lait chinois qui empoisonne, les contrefaçons chinoises qui sont une menace portée à la semence masculine, je l'ai entendu, ça aussi. C'est-à-dire une sorte de jalousie xénophobe. Ce néo-nationalisme est xénophobe, il est un tantinet raciste, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le comparer à ce que l'on voit dans les pays émergents. Je dis pas que dans les pays émergents, il n'y ait pas de xénophobie, je dis pas qu'il n'y ait pas une altérité biaisée, mais c'est d'un contexte totalement différent avec cette nostalgie très réactionnaire qui caractérise le nationalisme dans pays occidentaux où en plus on veut garder le monopole du jeu international. C'est quand même extraordinaire que n'importe quel chef d'État européen considère dès qu'il y a une crise à l'autre bout du monde que il a une responsabilité. Même Monsieur Macron, je l'ai entendu parler des responsabilités de la France. Bon, un jour il faudra me faire une dissertation sur quelle est la responsabilité de la France en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Vous appelez à la fin du messianisme occidental. En tout cas, Michel Fouché, on l'a compris, protection pour les uns, hein, néo-nationalisme, particulièrement dans les pays du Sud, et puis enfermement et xénophobie chez les autres. Vous partagez?
Oui, il y a des études récentes au Royaume-Uni, Oxford Economy, sur les critères qui permettent d'expliquer la formation et l'audience de mouvements néo-nationaux, néo-nationalistes dans les pays du nord de l'Europe qui sont les plus prospères et les plus égalitaires qui soient, avec une redistribution. Et donc là, les critères de chômage, d'inégalité ou de déficit public ne fonctionnent pas. Et la conclusion, c'est que la variable explicative, c'est ce qu'ils appellent le stress culturel. On a parlé d'insécurité culturelle en France, on parle de stress culturel. C'est le rapport au monde, c'est ce qu'on voit à la télévision, C'est la question migratoire qui vient essentiellement, et puis bien entendu le terrorisme. Il ne faut pas négliger l'impact non seulement réel, mais psychologique. Ce sont des variables qui sont, comment dire, sociopolitiques. Plus en effet la nostalgie qui alimente le déclinisme c'était mieux avant. Mmh. On ne sait pas très bien à quoi on se réfère. Donc en même temps, la réponse en termes d'ouverture, je crois, ne suffit pas. Ma thèse, c'est que dans un monde de représentation et de communication, dans un monde interconnecté, les responsables publics doivent expliquer ce qu'ils font. Communiquer, non, expliquer. Peut-être faire de la pédagogie. Sans acrimonie, le président de la République précédente a réalisé, c'est une chose que je suis de près, 260 voyages à l'étranger, en dehors du sujet malien, qui n'était pas un voyage d'ailleurs, c'était une décision d'intervention militaire. On n'a jamais eu de causerie au coin du feu. On n'a jamais eu de temps d'arrêt pendant 5 minutes en disant « voilà, je viens d'aller en Indonésie, en Malaisie, voilà pourquoi je suis au Vietnam, voilà ce que j'ai rencontré, voilà ce que j'ai fait ». On s'excuse en disant qu'on a ramené 6 milliards d'euros de contrats, qui ont d'ailleurs été signés avant ou qui seront signés après. Et on a besoin, au plan public, d'un discours sur le monde, pas d'un récit, pas du storytelling, d'un discours, on explique ce qu'on fait. Et ça manque beaucoup. Je suis là, pour le coup, nostalgique de ces grandes conférences de presse de Gaulle ou de Mitterrand où il y avait un temps d'arrêt.
Pour conclure, finalement, si on pousse plus loin le raisonnement de Michel Fouché, Bertrand Badi, les démocraties sont en danger?
Les démocraties doivent faire un aggiornamento, c'est absolument évident. Ne serait-ce que à travers cette question cruciale de l'Europe, il faut adapter la démocratie à l'Europe. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à voter à un niveau et à décider à un autre. Ce décalage est incroyable. Je trouve d'ailleurs faramineux de voir comment, dans un pays exigeant en matière démocratique, on prend des libertés avec la démocratie. Comment 500 000 cartes d'électeurs ont été distribuées en double. Et comment moi, par exemple, je n'ai pas pu voter par procuration parce que on m'a fait tout un tas de tracasseries. Bon, ça, c'est quand même important. Comment, effectivement, lorsque le peuple français s'exprime, il faut négocier sur un mode différent qui est celui du compromis à Bruxelles avec 26 autres chefs d'État, la réalisation du suffrage populaire. Donc là, il y a un vrai blocage. Cette méconnaissance de la mondialisation, c'est aussi un autre blocage démocratique considérable. Ça implique un travail d'ingénierie politique.
Michel Fouché, sur ce même thème, la démocratie en danger, très rapidement, quelques secondes.
Elle est en danger si les prochaines décisions cruciales, là, je pense qu'à la France pour l'instant, ne sont pas prises avec des processus beaucoup plus délibératifs. Je suis très sensible aux alertes de Laurent Berger actuellement sur les modalités de la décision. C'est toujours la question de la reconnaissance. Il faut mettre les gens autour de la table, reconnaître qu'ils ont des choses à dire et qu'ils doivent être partie prenante à la décision. Il faudrait sans doute renforcer la représentation de syndicats représentatifs dans le système de cogestion, par exemple, des entreprises. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, en effet, c'est des décisions prises de manière un peu anonyme à Bruxelles, plus souvent qu'on ne le dit d'ailleurs, sous l'effet des lobbies. Et là aussi, une pédagogie sur ce qui se fait.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Michel Fouché, je rappelle que vous êtes géographe et diplomate, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Le retour des frontières, paru aux éditions du CNRS. Bertrand Badi, professeur de relations internationales à Sciences Po, et l'auteur également de nombreux ouvrages, dont le dernier, Nous ne sommes plus seuls au monde, paru aux éditions La Découverte. Je signale donc la sortie de Vers un monde néo-national, point d'interrogation, dans lequel figurent les entretiens que vous avez eus avec Gaël Zmination, journaliste au Monde. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Marjorie Bertin et Julien Magoire.